Le 18-20 de France Inter est ouvert à vos marques et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le premier journal de la soirée, c'est celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi 24 octobre commence à la tribune des Nations Unies.
Un ton calme et déterminé pour des menaces sans détour contre l'Iran. Donald Trump, sans surprise, s'en est pris à la République islamique cet après-midi à l'Assemblée Générale de l'ONU. La PMA pour toutes les femmes, lesbiennes et célibataires comprises, arrive à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, trois ministres au front pour défendre le projet de loi bioéthique, des questions sensibles et des clivages qui dépassent la politique. Le gouvernement recule, il ne touche pas à l'exonération de charges pour les aides à domicile des seniors, contrairement à ce qui était annoncé ces derniers jours. Nous verrons également pourquoi le ministre de l'Éducation nationale accuse la FCPE d'erreur en parlant d'une campagne d'affichage pour les élections de parents d'élèves. Et puis le film de Ladj Lee, Les Misérables, a débuté sa campagne pour les Oscars à Hollywood hier soir.
À 18h15, un jour dans le monde, juste après le discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies dont vous parlerez Amélie, nous on a envie de s'interroger sur la stratégie de Trump vis-à-vis de l'Iran. Un jour on bombarde, le lendemain on veut se voir, le troisième on menace. Au fond, il n'a aucune intention de faire la guerre, ce Donald Trump. Il use de mille stratégies de contournement et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est très feutré. Justement, je vous emmène dans les pas de la diplomatie d'Emmanuel Macron aux Nations Unies. Vous verrez comment les tractations, les tentatives de médiation se passent de l'intérieur. 19h20, le téléphone sonne. Savez-vous quelle peut être la durée de psychose non traitée pour un schizophrène? C'est 2 ans, 8 à 10 ans pour une personne bipolaire. Autant d'années d'errance et de souffrance, la psychiatrie est malade, elle manque de tout, elle est saturée. C'est ce que dit un rapport parlementaire écrit comme un manifeste. Cette lecture est effrayante et on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Un message de paix donc, qui commence par une charge frontale.
L'Iran est le premier parrain du terrorisme mondial, a lancé Donald Trump à la tribune de l'ONU. Face à l'Assemblée Générale, le président américain a condamné une nouvelle fois les dirigeants de la République islamique avant de tendre une main timide au peuple iranien. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
Notre envoyé spécial à New York, vous venez d'assister donc au discours de Donald Trump, un discours à deux facettes. Et chez le dirigeant américain, cela commence toujours par des menaces, Christian.
Oui, Amélie, l'Iran figure toujours en très bonne place sur l'axe du mal du président américain. Donald Trump a eu des mots très durs contre la République islamique, ce qui augure mal d'une rencontre avec son homologue Hassan Rouhani.
No responsible government should subsidize.
Aucun gouvernement responsable ne peut appuyer l'Iran assoiffé de sang. Tant que l'Iran continue de nous menacer, les sanctions ne seront pas levées. Au contraire, elles seront durcies.
Mais il a aussi prononcé une phrase qui peut être interprétée comme un signe que Donald Trump laisse la place au dialogue quand il affirme que les États-Unis ne veulent pas d'ennemis permanents avec la Chine, son autre bête noire. Il a aussi soufflé le chaud et le froid.
The United States lost 60,000 factories after China entered.
Nous avons perdu 6000 usines après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Et c'est le cas également d'autres pays de par le monde. Nous espérons pouvoir parvenir à un accord qui profitera à l'un et l'autre pays. Et je l'ai dit très clairement, je n'accepterai pas un mauvais accord pour le peuple américain.
Alors Donald Trump a enfin entonné son couplet favori sur l'immigration illégale, le plus grand défi qui déchire les sociétés selon lui, une façon de justifier sa politique de fermeture des frontières.
Envoyé spécial au siège de l'ONU à New York, Christian Chéneau, merci. Lui aussi est à l'ONU, mais ce sont ses affaires intérieures qui le préoccupent davantage. Le Britannique Boris Johnson appelle à de nouvelles élections. C'est sa riposte à la Cour suprême. Quelques heures plus tôt à Londres, elle a jugé illégale la suspension du Parlement par le Premier ministre à quelques semaines du Brexit, prévu le 31 octobre. La Cour suprême ajoute que les députés doivent siéger à nouveau dès que possible.
Le Parlement français, lui, s'attaque au projet de loi bioéthique aujourd'hui.
Grand chantier social du quinquennat pour porter le texte et des propositions comme l'ouverture de la PMA aux femmes homo et célibataires. Rien de moins que trois ministres cet après-midi à l'Assemblée nationale. Nicole Belloubet à la justice, Frédéric Vidal à la recherche et Agnès Buzyn pour la santé que je vous propose d'écouter.
Accéder à des techniques médicales et accorder de nouveaux droits, ce n'est pas déréguler. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Parler de droit à l'enfant, c'est insinuer que l'enfant serait dorénavant à la merci de toutes les fantaisies, qu'il serait le simple produit d'un caprice. Dire cela, c'est dénigrer le projet parental. Les familles monoparentales et homoparentales existent déjà. Et il serait aussi hypocrite de ne pas le voir que de persister à ne pas les reconnaître.
Alors voilà pour ce projet de loi en 32 articles, près de 3 semaines de débats et plus de 2500 amendements. Les opposants fourbissent leurs arguments sur des sujets hautement sensibles comme la procréation médicalement assistée, la réforme de la filiation, l'autoconservation des ovocytes ou encore la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Karine Bécard en direct du Palais Bourbon, ce sont des questions intimes, clivantes. Karine, comment se situe chaque groupe politique ?
Eh bien, le clivage entre la droite et la gauche subsiste en réalité sur ce sujet. Globalement, les socialistes et les insoumis soutiennent le texte présenté cet après-midi par le gouvernement et ils pousseront même certains amendements, explique-t-il, pour que le projet aille encore plus loin sur la PMA post-mortem, par exemple, ou sur la PMA qu'il faudrait accepter d'accorder aux transsexuels. À droite, en revanche, les Républicains se montrent plutôt opposés aux mesures phares du texte et puis scepticisme également du côté du Rassemblement national. Reste la majorité relativement unie à l'heure où débutent seulement les débats, mais il y a déjà quelques voix discordantes sur la PMA accordée aux femmes seules, par exemple. Une trentaine de députés de La République En Marche y sont pour l'instant farouchement opposés. Et c'est bien là toute la difficulté des textes de loi sur les grands enjeux de société. Chaque député est toujours totalement libre au moment de voter, à lui, avec les débats, de se faire son avis. Donc impossible d'imaginer précisément tout ce qui va pendant 3 semaines arriver.
Merci Karine Bécard en direct de l'Assemblée nationale. Le gouvernement en revanche recule sur les aides aux seniors. Il avait envisagé ces derniers jours de supprimer l'exonération de charges patronales dont bénéficient aujourd'hui les plus de 70 ans. Il voulait réserver l'exonération aux seuls seniors dépendants et handicapés. Cette décision aurait mérité une concertation beaucoup plus affrontée, vient de reconnaître Édouard Philippe, le Premier ministre, donc y renonce. Les retraites, réforme contestée. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel de la CGT aujourd'hui et ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Rouen, Strasbourg ou encore à Grenoble. Philippe Martinez, le patron de la Confédération, entendait dénoncer l'objectif du gouvernement, faire des économies et nous faire travailler plus longtemps, dit-il. Bonsoir Grégoire Le Callot.
Bonsoir Amélie.
Vous avez suivi le cortège parisien, c'est une inquiétude partagée par les manifestants que vous avez rencontrés.
Oui, à l'évocation de la stratégie de concertation du gouvernement, Philippe Martinez, tout à l'heure en tête de cortège, souriait sous sa moustache.
Je vois que vous maniez toujours aussi bien l'humour, cher monsieur.
Scepticisme partagé dans les rangs des militants CGT, FSU et UNSA Ferroviaire qui ont fait le déplacement parfois sous la pluie comme Claude, ancien ouvrier du livre.
Ça me convainc pas parce que de toute façon ils essayent de faire durer les choses et de viser sur la démobilisation. Comme ils essayent de faire une différence entre les salariés qui ont un statut de retraite différent par rapport à leur activité professionnelle, et donc ils essayent toujours de diviser pour pouvoir faire passer leur projet. Donc faire étaler dans le temps, c'est exactement la même chose.
Alors la mobilisation dans la rue n'est sans doute pas celle des grands soirs, mais la CGT visait surtout un échantillon de professions très large, hein, salariés du privé, professeurs, fonctionnaires et bien sûr cheminots en grève aujourd'hui comme Ali, vieille casquette SNCF sur la tête, il travaille à la gare du Nord.
On est loin d'être privilégiés. On regarde que les cheminots sont moindres, à moindre égalité que dans le privé. Nos parents se sont battus et ont obtenu des droits sociaux qui permettent aux cheminots de vivre. Attention, hein, de vivre. Hein, on parle bien de vivre, on ne parle pas de retraite aisée.
Une réunion intersyndicale doit avoir lieu prochainement. En attendant, la CGT va distribuer 1 million de tracts.
Grégoire Le Callot et Julien Gérard au moyen technique, merci à vous deux. Le gouvernement peaufine dans le même temps son projet de budget 2020. Il doit le présenter vendredi. On attend notamment les mesures vertes en faveur de l'environnement. On sait déjà, bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
On sait que le crédit d'impôt pour la transition énergétique versé aux ménages qui font des travaux pour mieux isoler leur logement, ce CITE, est sur le point d'être transformé en prime. Ça change quoi? Ça va concerner qui, Delphine?
Eh bien, dans le cas du crédit d'impôt, il faut attendre l'année qui suit les travaux pour être remboursé et seuls les foyers imposables peuvent en bénéficier. L'avantage de la nouvelle prime unique, c'est qu'on la touchera en une seule fois et tout de suite dès la fin des travaux. Le gouvernement promet plus de simplicité. À partir de l'an prochain, il suffira d'envoyer le devis et la facture via une plateforme sur Internet. Une prime que le gouvernement promet aussi plus juste. Elle sera modulée en fonction de vos revenus. Seuls les ménages modestes et très modestes la toucheront. Le plafond fonds de ressources est fixé à 39 000 euros de revenus par an pour une famille avec deux enfants, ce qui correspond au barème de l'Agence nationale de l'habitat. Cette prime sera d'autant plus élevée que les gestes financés, fenêtres, toitures, chaudières ou isolation, seront jugés efficaces pour réduire les émissions de CO2. Techniquement, les aides de l'ANA et le CITE vont fusionner avec, qui sait, des économies à la clé pour le budget de l'État. Au total, les aides publiques allouées à la rénovation énergétique seront stables, voire baisseront légèrement l'an prochain. En seront exclus les ménages aux plus hauts revenus, ce qui inquiète le secteur du bâtiment, car cela pourrait engendrer une baisse de la demande. À ce stade, le gouvernement renvoie la question au débat parlementaire.
Delphine Simon, merci. Des leçons de laïcité données par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, n'a pas apprécié du tout la dernière campagne d'affichage de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves, dans une campagne pour les élections de parents d'élèves, donc, montre une femme voilée avec une petite fille et ce slogan « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?» Et alors, je pense que c'est une erreur, a dit le ministre Sonia Princé. Vous êtes avec nous. La question de la laïcité à l'école est toujours aussi explosive.
Oui, en fait, il s'agissait d'un pack de 5 affiches qui traitent des questions qui remontent le plus souvent des parents d'élèves. La cantine, le bâti scolaire, par exemple. Mais ce thème des mères voilées a fait réagir Jean-Michel Blanquer. Sur le plan juridique, elles peuvent tout à fait accompagner les sorties scolaires. Mais ce n'est pas à encourager, dit-il.
Pour moi, ça a été très étonnant de découvrir cela hier, parce que pour moi, la FCPE était plutôt synonyme de laïcité. Et donc, c'est une sorte de renversement. À mon avis, c'est juste une erreur d'appréciation de la part des responsables et je pense qu'ils vont sans doute corriger cette erreur. C'est d'autant plus regrettable qu'on est dans un moment où il faut être attentif à ce qu'une campagne électorale, quelle qu'elle soit, en l'occurrence une campagne pour les élections de parents, ne cherche pas à flatter le communautarisme, alors que notre République est justement aux antipodes du communautarisme.
Alors, est-ce que la FCPE a l'intention de corriger une erreur ? Pas du tout, répond son président Rodrigo Arenas, qui assume totalement ce choix.
Vous savez, on a 300 000 adhérents, on fait 1 million de voix aux élections. Moi, j'ai été élu, je n'ai pas été nommé dans un ministère ou dans un gouvernement. Et on n'a pas de leçon à recevoir de démocratie, on n'a pas de leçon à recevoir surtout de laïcité. Nous, on fait état d'une remontée de terrain. Dans certaines écoles et certains établissements, il y a des équipes pédagogiques qui préfèrent ne pas faire de sortie scolaire parce que les seules mamans qui sont disponibles pour pouvoir faire en sorte que les sorties se fassent, ce sont précisément ces mamans qui portent un fichu sur la tête. Ils ont une vision partielle de la laïcité. Nous, nous sommes sur une vision qui inclut les parents.
Pour la FCPE, le ministre a créé un précédent en intervenant dans des élections de parents d'élèves et en donnant de façon détournée des consignes de vote.
Merci Sonia Princé. On apprend que ces derniers mois, entre avril et juillet, 900 faits d'atteinte au principe de laïcité ont été signalés en majorité dans les collèges. Le droit à l'oubli existe sur Internet, oui, mais seulement à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Google peut crier victoire après cet arrêt de la Cour de justice de l'UE. Elle annule les sanctions de la CNIL en France. On y revient dans le journal de 19h. L'oubli raton lui aussi qui est menacé de disparition, le glacier de la Grande Motte à Tignes en Savoie, 2600 mètres d'altitude. Son ouverture aux skieurs prévue samedi est repoussée car le manteau neigeux est dégradé à cause des canicules de l'été.
Un film en campagne, celui du réalisateur français Lajli, Les Misérables.
En campagne aux États-Unis pour les Oscars, Les Misérables ont été choisis pour représenter la France dans la catégorie meilleur film international. Hier soir, Lajli l'a présenté à Hollywood, à Kolkoa, le festival du film français de Los Angeles. Un parcours exceptionnel pour ce long métrage sur une bavure policière en Seine-Saint-Denis, un film qui, faute de financement, a bien failli ne jamais se faire. C'est la correspondance de Loïc Piala.
Lajli et son film ont déjà un fan à Hollywood et pas n'importe lequel. Michael Mann, le réalisateur de Hit, a vu Les Misérables deux fois.
J'ai aimé le film, je le trouve formidable. Toutes les perspectives qu'il donne à voir, c'est fascinant. Et puis, c'est un film émouvant et captivant.
Sacré compliment venant de l'un de ses cinéastes préférés. Sur le tapis, Lee reçoit aussi les félicitations du patron de la MPAA, le syndicat des grands studios américains. Une reconnaissance supplémentaire après la bonne nouvelle de vendredi.
D'apprendre que le film a été sélectionné pour représenter la France pour les Oscars, c'est une énorme fierté, on est tous super contents. Et ça a été une surprise, en tout cas une belle surprise.
Même fierté chez son acteur Djibril Zonga, qui espère maintenant que Les Misérables fera partie des 5 films étrangers retenus pour les Oscars le 9 février.
Sur un petit nuage. Il faut rêver un petit peu. On n'est pas encore dans les 5, mais on va essayer de tout faire pour pouvoir réaliser notre rêve.
Alors, il va falloir faire campagne, comme disent les Américains. Objectif, que le film soit vu par les votants de l'Académie. Ça tombe bien, ils sont nombreux à fréquenter le festival de Kolkoa. Surtout, Lajli et ses acteurs peuvent compter sur la force de frappe d'Amazon, qui distribue le film aux États-Unis. Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Nous aussi, on a envie de le voir, Les Misérables de Lajli, ça sort en France le 20 novembre.
Et ben voilà, justement, je me demandais, mais on l'a vu quand ce film? Ben on l'a pas vu.
Donc, on va le voir.
Allez,
le 20 novembre.
On se croise les doigts pour lui en tout cas. Amélie Perrier, merci.